Tout à coup, avec la crise sanitaire, toute une partie de la classe ouvrière est devenue visible, avec des reportages à la télé, des interviews, des hommages. Et de qui s'agissait-il ? Des éboueurs, des infirmières, des aides-soignantes, des caissières, des auxiliaires de vie, des agents d'entretien, des enseignantes, quasiment que des femmes. C'est une réalité de la société capitaliste. Depuis le 19e siècle, depuis le développement de l'industrie, une fraction de plus en plus importante de la classe ouvrière est constituée par des femmes. Et actuellement, les travailleuses y sont omniprésentes, surtout dans le bas de la hiérarchie sociale d'ailleurs. Dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'entretien, de l'aide humaine, des secteurs absolument indispensables au fonctionnement de la société. 73% des agents d'entretien, 91% des aides-soignants, 83% des enseignants du premier degré, 90% du personnel des EHPAD, 90% des caissiers et 97% des aides à domicile sont des femmes. Ces salariés, mal payés, invisibles aux yeux des politiciens, des journalistes et commentateurs et autres laquais de la bourgeoisie, sont tout à coup apparus comme essentiels dans cette période de crise du Covid-19. Les éloges sur le courage de ces travailleuses ont coulé à flot avec la métaphore guerrière, les comparant à des soldats au front. Et comme toujours, dans les guerres que mène la bourgeoisie avec la peau des ouvriers, ces femmes soldats étaient sans protection, ni gel, ni masque, ni test, alors qu'il aurait été si facile d'en produire pour tous. Quant aux femmes qui ont été confinées parce qu'elles télétravaillaient, cette crise sanitaire s'est traduite par plus de travail, plus de stress, plus de fatigue. Il a fallu, dans la précipitation, organiser un poste de travail dans la cuisine ou la pièce commune, et avec du mobilier inadapté. Il a fallu partager le seul ordinateur avec toute la famille. Il a fallu faire l'école à la maison. Et cette tâche est retombée le plus souvent sur les mères. Quant aux tâches domestiques, elles ont été le plus souvent assumées par les femmes, que leur conjoint soit confiné ou pas. Ce qui ressort de cette période, c'est que les inégalités, qui étaient déjà bien présentes, se sont renforcées, que ce soit à la maison ou dans le monde du travail. Cette crise sanitaire s'est aussi traduite par une recrudescence des violences conjugales. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était obligé de reconnaître le 5 avril, je le cite, « Ces dernières semaines, tandis que s'aggravaient les pressions économiques et sociales et que la peur s'installait, le monde a connu une horrible flambée de violences domestiques. Même l'ONU, cette organisation de brigands hypocrites, est obligée d'admettre qu'il y a un lien profond entre la situation économique des femmes, la peur de l'avenir et les violences qui s'exercent contre elles. » En France, le numéro d'appel dédié aux femmes victimes de violences, le 3919, a été pris d'assaut, de 300 à 400 appels par jour contre 200 appels par jour en moyenne avant le confinement. Hausse des violences sexuelles, mais aussi baisse du nombre des IVG, explosion du chômage. Cette crise est non seulement un révélateur, mais également un facteur aggravant de l'oppression des femmes à travers le monde. Si l'oppression des femmes, les inégalités, les injustices qui les frappent ne datent pas de la crise sanitaire, celle-ci a montré le gouffre entre le rôle fondamental qu'elles ont dans la vie économique et l'organisation sociale et les violences qui s'exercent contre elles, la morale, les mœurs, qui la condamnent au rôle de mineur et d'objet sexuel. Et il n'y a pas à s'en étonner. C'est inhérent à l'histoire du système capitaliste qui a transformé une immense partie de la population mondiale, dont les femmes, en travailleurs, en exploités. Quant aux lois, aux mœurs, la morale qui règle la vie sociale, eh bien ce sont ceux de la classe dirigeante, c'est-à-dire des idées imprégnées de ses préjugés, de son mépris de classe qui divise, qui écrase tous les travailleurs. Et parmi ceux-ci, encore plus les travailleurs immigrés, les précaires ou les femmes. En 1974, lors de sa campagne pour les présidentielles, et c'était la première fois qu'une travailleuse osait s'y présenter, notre camarade Arlette Laguiller disait que pour les communistes révolutionnaires, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une revendication, mais c'est un fait. Affirmer cela, ce n'est pas gommer les différences biologiques évidentes qui existent entre les sexes. Mais pourquoi cette différence sexuelle devrait-elle se traduire par une inégalité ? Non. Les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas naturelles, contrairement à ce que proclament les dogmes de toutes les religions monothéistes. Ces religions qui font des femmes des êtres inférieurs. Ces inégalités sont apparues tardivement dans la longue histoire de l'humanité, comme les conséquences de la propriété privée qui était finalement une nouveauté dans l'organisation des sociétés primitives. Et depuis, dans toutes les sociétés d'exploitation qui se sont succédées sous le règne de cette propriété privée, les femmes ont été ravalées à un rang inférieur. Mais, il y a 200 ans, avec le développement de la société d'exploitation capitaliste, pour la première fois dans l'histoire humaine, ont été créées les conditions de la disparition de la propriété privée et par la même occasion, la disparition de l'exploitation et des oppressions qui vont avec. En révolutionnant la société, le capitalisme a donné les moyens de libérer l'humanité. Comme l'ont écrit Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, la bourgeoisie produit son propre fossoyeur en donnant naissance à la force sociale capable de renverser l'ordre capitaliste, la classe ouvrière, qui est composée aussi bien de femmes que d'hommes. Parce qu'ils voulaient révolutionner la société, Marx et Engels se sont attachés à comprendre l'organisation sociale dans son ensemble et dans son évolution. Ils n'étaient pas seulement solidaires des opprimés, et donc des femmes, dont ils soutenaient bien évidemment les aspirations à être considérées comme égales des hommes, ils apportaient aussi la possibilité de saisir les origines et les mécanismes de l'oppression. Mieux comprendre pour pouvoir non seulement se battre, mais aussi trouver une issue politique. Il donnait ainsi la possibilité au combat de tous les opprimés de rejoindre celui de la classe ouvrière pour renverser le capitalisme et en abolissant la propriété privée, en finir une fois pour toutes avec les sociétés basées sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Les idées révolutionnaires de Marx et d'Engels sur la famille et la place de la femme dans la société se trouvent dans un livre publié en 1884 qui s'intitule « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Dans cet ouvrage, Engels défend cette idée que la famille, telle qu'elle existe dans la société bourgeoise et dans la Bible, avec deux parents et les enfants, n'a pas toujours existé. Il affirme que, comme tout corps social, la famille a une histoire. Celle-ci commence à un certain stade de développement de la société, il y a seulement 10 000 ans, lorsque des groupes de chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés pour pratiquer l'agriculture et l'élevage. Cette révolution permet l'apparition d'un excédent non consommé, un surplus accaparé par une minorité. C'est la naissance de la propriété privée. Et avec elle, se pose le problème de sa transmission à la descendance. Car le seul moyen d'être certain de sa descendance, quand on est un homme, c'est de codifier des relations sexuelles exclusives pour les femmes. C'est de s'approprier le ventre qui porte l'enfant à naître. Autrement dit, la propriété des moyens de production inclut également la propriété des moyens de reproduction que sont les femmes.
Dans ce texte, Engels écrit, je le cite, « Le renversement du droit maternel fut la grande défaite historique du sexe féminin. Même à la maison, ce fut l'homme qui prit en main le gouvernail. La femme fut dégradée, asservie. Elle devint esclave du plaisir de l'homme et simple instrument de reproduction. » Avec cette conclusion, le plus important n'est pas dans la discussion historique ou anthropologique sur le droit maternel. Mais le plus important, c'est le fait qu'Engels apporte une explication scientifique à l'apparition de l'oppression des femmes et donc une base scientifique à son combat. Puisque l'oppression a une histoire, elle aura donc une fin. La division de la société en classes qui a été la conséquence de la naissance et du développement de la propriété privée a révolutionné tous les rapports sociaux existants dans les groupes humains qui jusque-là étaient assez exempts d'oppression et de domination car ils étaient basés sur un mode de vie collectif. Et cela a donc profondément modifié la place des femmes dans les sociétés humaines, les reléguant au rôle de génitrice, de garante de la transmission de la propriété, mais aussi à des fonctions subalternes. Elles ont été livrées à une double oppression, celle des plus riches et celle des hommes. Les sociétés humaines qui ont existé depuis ont toutes été basées sur l'exploitation et ont donc toutes fait perdurer cette oppression en la rendant souvent de plus en plus violente et barbare. La question du pouvoir sur le corps des femmes, sur leur sexualité, a pris une place majeure dans ces sociétés d'exploitation. Il en découle que l'émancipation des femmes ne sera complète et l'égalité réelle entre les sexes qu'avec la destruction de la société bourgeoise, du système capitaliste et de la propriété privée. C'est pour cela que dans la lignée de tous les militants marxistes révolutionnaires avant nous, nous affirmons que la lutte contre l'oppression des femmes est indissociable de la lutte de la classe ouvrière dans son ensemble. Car la classe ouvrière est la seule force sociale capable de s'attaquer au fondement de la puissance capitaliste et donc à ses conséquences sociales diverses. Et enfin, nous affirmons que les femmes ont un rôle majeur à jouer dans tous ces combats. Et cette idée fondamentale donne une perspective large, enthousiasmante, pour les femmes comme pour tous les opprimés. Contrairement à ce que disent certains de nos détracteurs, ce lien entre les luttes contre l'oppression des femmes et les luttes de la classe ouvrière que nous faisons ne provient pas du fait que pour les marxistes, l'oppression des femmes sera un sujet mineur, annexe. Toute l'histoire du mouvement marxiste témoigne de l'exact inverse. Rappelons qu'à partir de 1864, au sein de la Première Internationale, les marxistes ont pris clairement position pour le travail des femmes. Et dans ce combat pour imposer cette idée, ils se sont retrouvés avec les militants collectivistes tels Eugène Varlin ou Nathalie Lemel. En 1879, en France, le parti ouvrier de Jules Guesde, un militant marxiste, un dirigeant marxiste, invite à son congrès Hubertine Auclair, une militante pour le droit de vote des femmes. Son discours est ovationné par les 130 délégués qui inscrivent dans leur programme l'égalité civile et politique des femmes. Dans la Seconde Internationale, Auguste Bebel, dirigeant de la social-démocratie allemande, écrivit en 1884 un livre largement diffusé dans le mouvement ouvrier allemand, « La femme et le socialisme ». Et c'est avec ce livre que des générations de militants ont été éduqués au combat révolutionnaire, à l'idéal socialiste et aussi au fait de considérer les femmes comme des camarades de lutte. Quant à Rosa Luxembourg ou Clara Zetkin, elles étaient des dirigeantes à part entière du mouvement socialiste, à une époque où l'ensemble de la bourgeoisie ne faisait aucune place à aucune femme. Si aujourd'hui on insiste dessus, si on y revient, c'est parce que cette analyse est une arme importante pour pouvoir lutter. Les marxistes que nous sommes, nous ne nous contentons pas de dénoncer le patriarcat. Encore moins de dire qu'on peut l'abattre, ce patriarcat, sans combattre le reste du système. Pour nous, l'oppression des femmes ne s'explique pas par la domination masculine seulement. Elle ne tient pas à une propension des hommes à vouloir dominer les femmes, ni à une sorte d'identité masculine. Et si en effet l'éducation reçue par les hommes dans la société favorise ces comportements sexistes, oublier de lier ces comportements au fait que toute notre société est basée sur des rapports de domination revient à attribuer, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, l'oppression des femmes uniquement aux hommes. Et cette explication mène dans une impasse, condamne à se contenter de dénoncer cette oppression et à en faire une question de comportement individuel des hommes. Et à partir de là, la lutte pour l'émancipation des femmes se résumerait à combattre les comportements des hommes, pour les plus radicales par la lutte, pour les plus réformistes des féministes par l'éducation ou encore par des lois. Et puis ça revient souvent à placer les femmes dans la seule position de victime de la domination masculine, voire des hommes en général. Cette victimisation des femmes est une idée nuisible. Car à partir de là, l'émancipation des femmes n'est plus un combat à mener, mais une chose à obtenir, y compris en faisant confiance à un pouvoir au service des bourgeois pour protéger les femmes et pour changer leur sort en éduquant les hommes. De même que Marx ne regardait pas les travailleurs comme des victimes, mais comme la seule force sociale capable de renverser le pouvoir de la bourgeoisie, les communistes tiennent le même raisonnement pour les femmes. Ils ne se proposent pas comme des avocats appelés dans leur cause, mais comme des frères et des sœurs de combat, non seulement contre les injustices et les inégalités sexuelles, mais également contre toutes les oppressions générées par le système capitaliste. Le combat communiste contre le capitalisme, ce n'est pas une juxtaposition, une addition de toutes les luttes contre les oppressions. C'est la fusion des luttes de tous les opprimés, grâce à la compréhension sur des bases scientifiques, des mécanismes d'oppression que génère une économie basée sur la propriété privée, la concurrence et la recherche du profit. On le sait bien, ce n'est pas la crise économique actuelle qui a fait apparaître l'oppression des femmes. Mais depuis des années, on constate qu'avec cette crise, le sort des femmes se dégrade encore. Il se dégrade parce qu'elles sont les premières victimes du chômage, de la précarité, des bas salaires, du délabrement des services publics, du manque de logements sociaux. Mais il se délabre aussi parce que cette situation sociale se traduit par une évolution de plus en plus réactionnaire de la société. On a vu déjà comment des partis politiques ouvertement anti-femmes se sont fait élire ces dernières années. Le parti Vox en Espagne, le parti de Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie, Trump aux États-Unis, tous ces courants politiques traînent dans leur programme des idées crasseuses contre les femmes. Les violences contre les femmes augmentent dans le monde, les féminicides augmentent, les préjugés sexistes ont la vie dure partout. De plus en plus de gouvernements reviennent sur le peu de droits obtenus dans les décennies précédentes, en particulier le droit à l'avortement. L'économie capitaliste repose sur la concurrence, la lutte de tous contre tous. Et en période de crise, cela s'exacerbe. Le chômage de masse a accentué la dictature que les patrons exercent dans leurs entreprises. L'organisation militaire qui règne dans les entreprises, la hiérarchie, les humiliations quotidiennes, la pression du chômage pour faire taire toute contestation, tout cela aggrave non seulement l'exploitation, mais aussi les rapports sociaux. Celui qui a baissé la tête devant les chefs, le patron, qui a subi des remarques humiliantes toute la journée, toute la semaine, la société lui donne les moyens de mépriser quelqu'un d'encore moins bien loti que lui, l'intérimaire, le travailleur immigré, et aussi d'être le chef chez lui, d'imposer lui aussi sa loi sur sa femme, sur sa famille, ses enfants, sa fille. C'est une vieille idée très bien formulée par Flora Tristan, une militante socialiste et féministe du XIXe siècle. C'est elle qui a écrit, je la cite, « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » Cette phrase, elle condamne la situation à laquelle les femmes sont réduites, mais elle donne aussi une explication sur les mécanismes d'oppression qui fonctionnent, sur la division, les inégalités et le pouvoir. Et la société bourgeoise se sert de toutes ces divisions, des inégalités qu'elle instaure elle-même, pour légitimer et asseoir sa propre domination. C'est en ça que l'oppression des femmes est le produit de l'exploitation capitaliste. Alors, face à cette crise actuelle et aux conséquences attendues pour les travailleurs et les travailleuses, on dit quoi? On fait quoi?
Alors qu'on ne sait pas s'il y aura ou pas une deuxième vague de l'épidémie, une chose est d'ores et déjà certaine, la crise qui s'annonce avec sa vague de licenciements va être particulièrement violente. Et elle le sera d'autant plus avec les femmes travailleuses. La crise économique aggrave les inégalités. Les secteurs actuels les plus touchés sont les loisirs, l'hôtellerie, la restauration et les ventes qui emploient presque exclusivement des femmes. Alors que les travailleurs du monde entier étaient en train d'affronter l'épidémie, la bourgeoisie, elle exigeait des centaines de milliards pour préserver ses profits. Et on l'a vu, la crise sanitaire a été une occasion de plus pour le grand patronat d'exiger que le gouvernement prenne des mesures en sa faveur. Les lois d'urgence, votées au début de l'épidémie, offrent la possibilité aux patrons de faire travailler jusque 60 heures par semaine. Elles légalisent le vol des RTT, les vols de congés payés. Alors que le gouvernement et les capitalistes font sauter les lois qui posaient un cadre si minime soit-il à l'exploitation, comment croire que les dirigeants politiques de ce système inégalitaire pourraient accepter de limiter l'oppression des femmes? Vu la tourmente dans laquelle la société a sombré, vu la guerre sociale que la bourgeoisie mène contre la classe ouvrière, il faut que l'organisation et la réponse des travailleurs et des opprimés soient à la hauteur de ces attaques. La seule gouvernance que connaît la bourgeoisie en temps de crise, c'est la guerre pour sauvegarder sa domination sur l'économie. Et cette guerre, elle l'a fait avec la peau des travailleuses et des travailleurs. Pour affronter la crise qui s'annonce d'une violence particulière, la bourgeoisie va mener une politique de terreur sur la classe ouvrière et en particulier sur les femmes. On en voit déjà quelques signes avec les difficultés actuelles auxquelles les femmes sont confrontées. Par exemple, le problème des avortements tardifs pendant le confinement ou le chômage qui a particulièrement augmenté chez les femmes, les violences conjugales qui sont en hausse. Ce serait une grave illusion de penser que le mouvement des femmes pour l'égalité peut gagner à lui seul, en particulier dans ce contexte actuel d'aggravation brutale de la crise économique capitaliste et de la flambée des idées réactionnaires. Il ne pourra pas gagner seul s'il ne se préoccupe pas des raisons pour lesquelles l'ensemble de la société recule. Car s'il y a la question du sexisme, il y a aussi celle du racisme, de la destruction de la nature, des attaques contre le droit du travail, de l'exploitation. La lutte des femmes pour leurs droits, elle s'inscrit dans le cadre plus général de la lutte contre l'ordre social bourgeois, contre sa morale, contre ses valeurs. Et c'est en remettant en question l'ensemble du fonctionnement de l'économie, en remettant en question la dictature de la bourgeoisie sur la société, qu'il sera également possible de remettre en question les conséquences de cet ordre social, les inégalités, les injustices, les discriminations. Et quelle force sociale peut renverser la domination de la bourgeoisie et les conséquences de cette domination sur l'ensemble de la société, dont les femmes? Eh bien, nous, communistes révolutionnaires, nous pensons que, à l'échelle de la planète, c'est la classe ouvrière qui est composée en grande partie de femmes.